de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonsoir à tous, voici le bulletin de l'information. Tout d'abord, le titre de l'actualité. Propagation de corona pénètre la forêt amazonienne, femmes indigènes tribales infectées. Duterte applique le verrouillage COVID-19. L'Italie prolonge le verrouillage. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche demande que la logistique de la pêche soit expédiée sans restriction. Depuis le 3 avril 2020, les citoyens indonésiens ne sont pas autorisés à entrer au Japon. Voici le bulletin complet. Une femme indigène de la forêt amazonienne au Brésil a été infectée par un nouveau virus corona, COVID-19. L'exposition de cette femme est un signe que le virus s'est propagé dans les forêts reculées d'Amérique latine. L'exposition à une femme indigène d'Amazonie par COVID-19 a été signalée par les services de santé tribaux du ministère brésilien de la Santé. Selon le service, ce fut le premier cas parmi plus de 300 tribus au Brésil. Un porte-parole a déclaré par téléphone, cité par Reuters jeudi, qu'une femme de 19 ans de la tribu Kokama a été testée positive pour l'infection au COVID-19 dans le district de Santo Antonio do Isa. Son emplacement est près de la frontière avec la Colombie, à environ 880 km au-dessus du fleuve Amazon depuis la capitale de l'État de Manaus. Le président philippin Rodrigo Duterte a instauré un verrouillage d'un mois sur l'île Luzon pour arrêter la propagation du nouveau virus corona COVID-19. Dans un discours national diffusé par la chaîne de télévision cité par Al Jazeera, Duterte a ordonné jeudi à la police et à l'armée de tirer sur toute personne qui aurait violé les règles de verrouillage. La forte mise en garde de Duterte est intervenue après que les habitants d'un bidonville de la ville Quezon à Mani ont manifesté le long de l'autoroute près de leur maison. Ils affirment ne pas avoir reçu de colis d'aide alimentaire et d'autres fournitures depuis le début de la fermeture, il y a plus de 2 semaines. Les agents de sécurité du village et la police les ont exhortés à rentrer chez eux. Cependant, l'appel a été rejeté. La police a interrompu la manifestation et arrêté 20 personnes. Le gouvernement italien a prolongé la politique de verrouillage jusqu'au 13 avril prochain pour réduire la transmission et la propagation du virus corona COVID-19. Le premier ministre italien Giuseppe Conte, dans un discours diffusé à la télévision nationale tel que rapporté par l'AFP jeudi, a déclaré que si vous commencez à assouplir les étapes maintenant, tous les efforts seront vains. La prolongation de cette politique de verrouillage avait été prévue au préalable par le ministre italien de la Santé. Il a déclaré que les activités commerciales dans tous les pays, avec une population de 60 millions d'habitants, resteront fermées et les réunions publiques seront interdites au moins jusqu'au 12 avril. Le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche a demandé que l'accès à la livraison des installations de production et de logistique dans le domaine des affaires maritimes et de la pêche ne soit pas restreint, y compris les zones qui constituent une zone rouge pandémique COVID-19. Le directeur général de l'aquaculture, Slamet Subiakto, a déclaré jeudi dans un communiqué de presse à Jakarta que le secteur de la pêche, en particulier le sous-secteur de l'aquaculture, était étroitement lié au problème de l'approvisionnement alimentaire de la communauté. Cette éclosion de COVID-19 est un défi pour l'approvisionnement alimentaire, y compris les produits de la pêche. Le gouvernement japonais a refusé d'entrer les citoyens de 49 pays, y compris l'Indonésie, pour empêcher le virus corona COVID-19 à compter du 3 avril 2020 à 0 heure, heure japonais. En vertu des politiques relatives au franchissement des personnes publiées le 1er avril 2020, tous les ressortissants étrangers qui ont été ou visité ces pays, y compris l'Indonésie, au cours des 14 derniers jours avant leur arrivée au Japon, ne sont pas autorisés à entrer au Japon, sauf en cas d'urgence. La déclaration écrite de l'ambassade du Japon en Indonésie sur son site officiel consulté jeudi indique que cette politique ne s'applique pas aux citoyens indonésiens ayant le statut de résident permanent, aux conjoints de citoyens japonais, aux conjoints de résident permanent et aux titulaires de permis de séjour permanent qui quittent le Japon et remplir le permis de rentrée jusqu'au 2 avril 2020. Chers amis, c'était le bulletin de l'information de la Voix de l'Indonésie, Jakarta. Bonsoir à tous, voici les infos de l'Indonésie. La première info est venue de Bengkulu. Le Centre de conservation des ressources naturelles de Bengkulu a relâché 56 oiseaux protégés dans le parc national Bukit Barisan Selatan. Les espèces d'oiseaux libérées mardi 31 mars comprenaient cica daun dahi emas, cica daun kecil, cica daun besar, tangkaruli Sumatera, takur api, serindit Melayu, betet ekor panjang, et ekek layongan. Le chef par intérim du parc national du Bukit Barisan Selatan, Ismanto, dans sa déclaration écrite reçue à Jakarta jeudi 2 avril, a déclaré que dans la situation des contre-mesures COVID-19, le bien-être des animaux pour pouvoir vivre librement dans la nature ne doit pas être oublié, tout en appliquant toujours les normes recommandées par le gouvernement. Selon les données, jusqu'en février 2020, au moins environ 19 175 oiseaux ont été relâchés avec succès dans la province Bengkulu. Ensuite, l'info de la région Benar Meriah en province Aceh. Le gouvernement a répondu aux préoccupations croissantes du public concernant la propagation de COVID-19 en prenant des mesures préventives pour réduire les activités à l'extérieur du domicile. Les habitants du village Lot Benar Kelipah, sous-district Benar Kelipah, en région Benar Meriah, ont ravivé la tradition Tulak Bele, soit rejeter les renforts, dans le village Menasah. La tradition vise à accroître la sensibilisation du public et le respect d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que la peste puisse être vaincue. La tradition Tulak Bele invite également les chefs traditionnels et les chefs religieux à mener ensemble la fête et le zikir. La dernière info est toujours venue d'Aceh. Le bureau de l'éducation d'Aceh, par l'intermédiaire du lycée professionnel de l'État 2 Banda Aceh, en collaboration avec l'université Sheikh Kuala, a montré son souci d'aider à prévenir la propagation de l'épidémie du virus corona COVID-19. Les enseignants et les étudiants du lycée professionnel de l'État 2 Banda Aceh ont pris une mesure créative en créant l'un des équipements de protection individuelle, EPI, sous la forme d'un masque facial qui sont autoproduits et peuvent être utilisés par le personnel médical travaillant dans les hôpitaux. Le chef du bureau de l'éducation d'Aceh, Rahmat Fitri, a inspecté le site de fabrication du masque facial au lycée professionnel de l'État 2, Banda Aceh, mercredi 1er avril. Il a apprécié le rythme des écoles qui continuent de développer leur potentiel pour créer les outils dont la société a besoin aujourd'hui. Il a demandé que les matériaux utilisés puissent répondre aux normes fixées par le gouvernement ou que les spécifications soient les mêmes que le masque facial utilisé par le personnel médical des hôpitaux. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie. Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec une rubrique de l'histoire d'aujourd'hui, le 4 mars. Premièrement, le 4 mars 1980, Robert Mugabe devient le premier premier ministre noir à Zimbabwe. Robert Gabriel Mugabe est le président de Zimbabwe à présent. À partir de 4 mars 1980, Mugabe était le premier indigène qui devenait premier ministre de Zimbabwe et premier président exécutif. Zimbabwe étant précédemment nommé la Rhodésie et la colonie britannique. Sa position comme président était commencée le 31 décembre 1987, après que ce pays a atteint son indépendance de la Grande-Bretagne. Mugabe est en provenance de Kutama Mission District, Zvimba, Harare Nord-Ouest, en Rhodésie Sud. Il prenait son étude à l'école de missionnaires et de 7 étudiants, il est le premier diplômé South Africa's Fourth Harare University. En 1960, il a fusionné avec le groupe Joshua Nkomo du parti ZANU, Zimbabwe African National Union. Ce parti prend Robert Mugabe d'être leader de Zimbabwe. Nous nous tournons vers l'événement du 4 mars 1980, l'inauguration de la pyramide du Louvre. Le président de la République française, François Mitterrand, a inauguré l'entrée principale du musée Louvre à Paris. Le bâtiment en forme de pyramide et en structure de verre et d'acier. L'architecte du bâtiment est IMPI, un Américain d'origine chinoise. L'auteur de la grande pyramide de verre et d'acier est 21 mètres avec une formation de diamants de verre d'un montant de 673. L'idée de la construction moderne rend les pour et les contre sur l'ancienne artistique du musée. Mais enfin, la pyramide de verre du Louvre devient l'icône du bâtiment à Paris. Le dernier, le 4 mars 1992, l'essai de coup d'État de Chavez au Venezuela. Hugo Rafael Chavez Frias a dirigé le coup d'État contre le président du Venezuela, Carlos Andrés Pérez, mais il est échoué. Chavez, étant nombre d'amis, était emprisonné, mais enfin ils étaient libérés 2 ans plus tard. En 1994,
1998, Chavez a participé dans les élections générales et en 1999 devenait président du Venezuela jusqu'à présent. Cher ami, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Menyiksa, ingin ku jumpa, tapi batas memaksa. Senyum pesona, oh, terbayang di benak. Tenangkan jiwa, hilangkan semua rasa, ganti haru bahagia. Oh, oh, oh. Kau ada di hatiku, di mimpiku dan di hariku. Pesona, oh, terbayang di benak. Tenangkan jiwa, hilangkan semua rasa.
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et en petit titre, le ministère de l'Industrie se concentre sur l'optimisation de la production d'équipements de protection individuelle nationaux. Le ministère de l'Industrie s'efforce d'encourager l'optimisation de la productivité de l'industrie des équipements de protection individuelle, EPI, afin de lutter contre la pandémie du virus corona COVID-19 dans le pays, comme l'a déclaré le directeur général de l'industrie chimique, pharmaceutiques et textiles du ministère de l'Industrie, Mohamed Kayam, à travers sa déclaration reçue mardi 31 mars à l'agence de presse Antara. Selon Mohamed Kayam, le besoin d'équipements de protection individuelle dans le pays augmente, en particulier pour répondre à la demande de personnel médical compte tenu de l'augmentation des cas de COVID-19 en Indonésie. Mohamed Kayam a expliqué que les fabricants d'équipements de protection individuelle comptaient leur capacité de production pour les 6 à 8 prochains mois. Ce calcul sera ajusté au calendrier de distribution à chaque utilisateur, comme les hôpitaux qui en ont vraiment besoin. Kayam a déclaré que dans des conditions normales ou en l'absence de flambée de COVID-19, l'industrie nationale des équipements de protection individuelle produisait jusqu'à 1 million d'unités par mois. Mais dans les conditions actuelles, le besoin d'équipements de protection individuelle augmente. Le ministère de l'Industrie remercie les acteurs de l'industrie textile en Indonésie qui ont participé à la production d'équipements de protection individuelle. Cela devrait stimuler la performance de l'industrie textile nationale au milieu des pressions de la conjoncture économique mondiale. Avec l'implication de l'industrie textile, la capacité de production des épis peut atteindre plus de 17 millions d'unités par mois. Selon les projets du ministère de l'Industrie, jusqu'en mai 2020, les besoins antérieurs en épis sont d'environ 3 à 5 millions d'unités. L'Indonésie compte actuellement 28 fabricants d'équipements de protection individuelle avec une capacité de production totale pouvant atteindre 17,8 millions d'unités par mois. Sur les 28 producteurs d'épis, 5 entreprises augmentent leur production, tandis que les autres sont en préparation et démarrent début avril. Mohamed Kayam a ajouté qu'à la fin du mois d'avril, environ 5 à 10 millions d'équipements de protection individuelle pourraient être distribués. L'équipement de protection individuelle nécessaire comprend les vêtements, les couvre-chefs, les masques, les serviettes, les gants, les protège-jambes, les protège-mains et les lunettes de protection. Afin de répondre aux besoins en équipement de protection individuelle, le ministère de l'Industrie continue de coordonner ses activités avec l'Agence nationale de gestion des catastrophes, BNPB, et le ministère de la Santé. Chers amis, c'était mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari perang. Keluarlah dari zona nyaman. Sebilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Sebilu yang dulu biarlah membiru. Berkarya bersama hati. Oh, kurakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman. Bergeraklah dari zona nyaman. Seekor sapi sembilu yang dulu biarlah membiru. Berkarya bersama hati,
chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz, 4750 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, voici le magazine culturel. Ce soir, nous vous inviterons à profiter des délices de Naniura, de Tapanuli, au nord de Sumatra. Naniura est connue comme sushi du peuple de Sumatra Nord. Cette nourriture provient de Tapanuli, la région autour du lac Toba. Naniura est l'une des spécialités de Batak, qui est célèbre pour ses poissons qui ne sont pas cuits, mais seulement assaisonnés. Dans la langue Batak, Naniura est un poisson acidifié. Mais même ainsi, le poisson peut être mangé, car la marinade acide pour éliminer l'odeur fétide du poisson cru. Dans les temps anciens, cette cuisine de Tapanuli était consacrée au roi, dont le roi Sisinga Mangaraja. Par conséquent, seules les cuisines royaux peuvent cuisiner Naniura. Mais avec le temps et en raison de son goût très unique, presque tous les Batak peuvent déjà le cuisiner. Même aujourd'hui, en raison de son épice distinctif, Andaliman, qui est une authentique épice de Batak, de nombreux touristes nationaux et étrangers recherchent cette cuisine indigène Tapanuli lorsqu'ils visitent plusieurs régions à Sumatra Nord. Le goût du poisson fait d'être naniura est très amer sur la langue. Les épices sont épicées et chaudes sur les lèvres, surtout si naniura est mangée avec quelques boissons gazeuses ou des boissons alcoolisées comme le vin de palme à base de jus. Vous vous sentirez très satisfait si naniura est faite comme tambul, qui est une collation en buvant du vin. Le goût sucré du poisson ainsi que le goût épicé est le plaisir des épices, ainsi que le goût amer de l'andaliman peuvent rendre le bout de la langue comme une piqûre. Naniura se trouve à plusieurs endroits dans Sumatra Nord, en particulier dans les sites touristiques au bord du lac Toba. Il y a même un restaurant qui permet aux visiteurs de voir comment le processus de fabrication de naniura. Cuisiner naniura est en effet un peu compliqué. Le poisson utilisé peut être n'importe quel poisson, comme le poisson rouge, le poisson mujair. Le poisson est mis dans le bain d'acide chunga pendant 4 à 5 heures, ajouté avec d'autres épices telles que le noyer cuit au four, l'ail, l'oignon, le poivre, le gingembre, le curcuma ajouté avec du piment. Pour être doux, le poisson doit être enveloppé. Le tamarin qui sert à faire du poisson cuit n'existe également qu'au nord de Sumatra. L'acide chunga ne peut pas être remplacé par aucun acide car il peut transformer le goût du poisson en amer. Cher ami, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle à notre radio. Au revoir.
Cinta menurutmu.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur en formant sur la région du plateau Dieng qui met en place la billetterie électronique. La région du plateau Dieng a mis à jour le système de billetterie. En utilisant un système de billetterie électronique, les visiteurs n'ont pas à se soucier d'acheter les billets directement chez eux. L'application de ce billet électronique est valable pour la visite du complexe du temple Arjuna et du cratère Sikidang. Si à l'heure actuelle, la région du plateau Dieng a mis en place un ticket sous forme de code-barre, l'application de ce système de billetterie électronique peut faciliter la commande de billets pour entrer dans la zone touristique du plateau Dieng, n'importe où et à tout moment. Le gouvernement de la région Banjarnegara Java Central se prépare actuellement à mettre en place un système de billetterie électronique dans la zone touristique du plateau Dieng. Le régent de Banjarnegara, Budi Sarwono, a déclaré que l'application du système de billetterie électronique visait à améliorer les services aux touristes. Le gouvernement de la région Banjarnegara prévoit également d'embellir les installations et infrastructures existantes à Dieng pour accroître l'intérêt touristique. De plus, une aire de repos sera construite dans la zone de la ligne principale de Dieng. Bien entendu, les différents programmes étant mis en œuvre devraient permettre d'augmenter le nombre de visites touristiques à Dieng et d'avoir un bon impact sur la communauté locale. La région de Banjarnegara, Budi Sarwono, estime qu'avec le nombre croissant de touristes qui arrivent, ce sera mieux pour l'économie de ses citoyens. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Selalu ku nanti. selama ini katanya. Izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hei cantik, bawa aku jalan. Jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta, diam kehilanganmu. Bau wangi hujan tak lagi sama. Musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri. Hingga kini masih selalu menanti-nanti. Terbawa lagi langkahku kesana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya. Izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Ingat waktu itu ku mau dengar jawabnya. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya. Izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Voici le magazine musical et cette édition, je vous présente une chanson de Kroncong intitulée Petir, créée par Sariwono. Cette chanson originale de Kroncong raconte quelqu'un qui essaie de tenir une promesse de rencontrer sa petite amie. Bien qu'il pleuve ainsi que la foudre et le vent fort, il a quand même passé car il voulait rencontrer son amant qu'il avait depuis longtemps quitté. Bon, chers auditeurs, voici Mira Tania, dont le titre est Petir ou en français la foudre.
Thank you.
Of Indonesia.
Terima kasih.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.